Le monde au féminin.
Hey you, over there, please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Au Kenya, Martha Karambukome est devenue la première femme à diriger la Cour suprême depuis sa nomination le 19 mai dernier. Cette fervente défenseure des droits des femmes siégeait à la Cour d'appel avant sa promotion. Madame Kumi s'est fait un nom sous le régime de Daniel Arap Moi en défendant des prisonniers politiques, parmi lesquels Raila Odinga, qui deviendra le chef historique de l'opposition. Elle a notamment participé à la refonte de la charte des enfants du Kenya. Lors de son audition devant les parlementaires, Martha Karambukome a promis de débarrasser le système judiciaire de la corruption et de préserver son indépendance. Les services d'immigration américains ont rompu leur contrat avec une prison privée pour la rétention de migrants illégaux après des accusations d'opérations gynécologiques subies par des femmes. Dans le centre de détention du comté d'Irwin en Géorgie, un médecin a été accusé en septembre 2020 d'avoir effectué des stérilisations sur des détenus. Une infirmière de l'établissement avait lancé l'alerte en contactant des ONG locales. Selon l'organisation Project South, au moins 17 femmes, dont des immigrées mexicaines, avaient été stérilisées, dans certains cas par hystérectomie totale, sans leur consentement ou sans obtenir les informations nécessaires. Une enquête a été ouverte.
Parole de femme.
Partons à la rencontre de Maguette Niang, fondatrice de deux start-up au Sénégal spécialisées en tourisme et communication digitale. Cette jeune femme de 24 ans, passionnée d'entrepreneuriat, a publié un guide sur le sujet. Notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay, lui a tendu le micro.
Jeune chef d'entreprise de 24 ans, Maguette Niang part à l'assaut du monde des affaires après avoir bouclé un parcours académique brillant, sanctionné d'un DUT en marketing et technique de commercialisation et d'une licence en marketing et affaires internationales. Entrepreneur dans l'âme, Maguette est partie de rien.
Alors moi, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. Donc depuis que j'ai 20 ans, j'avais créé une boutique en ligne qui était sur Instagram. Donc je vendais des accessoires, des vêtements et tout ça. Et je me suis prise au jeu. J'ai commencé à beaucoup m'intéresser à l'entrepreneuriat. J'ai fait des recherches et au fur du temps j'ai développé deux passions qui sont le voyage et aussi le marketing digital. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans mes deux passions. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat.
Avec plusieurs certifications en poche comme Google Atelier Numérique, UDME ou encore Google Classroom et une expérience professionnelle acquise lors de son passage à la Sonatel Orange, Maguette est bien outillée pour mener à bien ses projets dont l'un vise à faire découvrir les merveilles du pays de la Teranga.
J'avais créé une agence qui s'appelle Sunutrip. Donc c'est une agence de découverte touristique ici au Sénégal et on privilégie le tourisme local en exhortant les Sénégalais à voyager, découvrir le Sénégal à moindre coût. Donc on fait tout le temps des journées, des week-ends et tout ça à travers le Sénégal comme des destinations l'Ampoule, la Grosse, les îles du Sable, etc. Et à côté, il y a l'autre agence qui s'appelle Linkyo Agency. Donc c'est une agence de marketing digital qui est plus spécialisé dans le marketing d'influence. Donc, et en même temps, dans cette agence-là, on fait du community management et de l'événementiel.
Perfectionniste, Maguette manage bien ses deux entreprises elle-même et avec brio. Elle ne ménage pas ses efforts pour que le travail soit bien fait. Abdul Aziz Mboup, un de ses clients, estime que ce que Maguette fait à son âge est fascinant.
Maguette Nian, elle fait un boulot vraiment extraordinaire. Elle propose de très bonnes destinations avec différentes activités qui vont permettre à ses clients de beaucoup s'évader, d'être loin du stress du travail quotidien et de se changer les idées. Ce que j'aime le plus chez elle, c'est qu'en fait, ses voyages se font avec une très bonne organisation.
Jusqu'ici, Maguette travaille sur fonds propres, elle s'est autofinancée. Avec un moral à toute épreuve, elle ne baisse jamais les bras et se surpasse pour atteindre ses objectifs, nous dit son ami Abou Diop.
Maguette Nian est très ambitieuse, je dirais. Moi-même, je suis ébloui devant son ambition. Tout de même, c'est une fille qui n'a pas hésité à percer dans le milieu du digital également. Et notamment, elle a créé une agence, elle a nommé Link Your Agency, qui agit énormément dans le digital, surtout dans le milieu de ce que l'on appelle les influenceurs.
Malgré la crise économique engendrée par le Covid-19, Maguette continue de développer ses activités avec l'objectif de placer ses entreprises parmi les leaders du marché du tourisme et du digital au Sénégal et en Afrique. Pour y arriver, elle espère réunir assez de fonds et avoir plus de collaborateurs afin de développer ses affaires ici et ailleurs. Seydina Abagé à Dakar pour VOA Afrique.
Gabon, les chefferies administratives de Libreville ont ouvert le débat sur les violences conjugales. Le pays prépare une série de lois pour lutter contre le phénomène. Le compte-rendu de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Baltibaba est chef de quartier. La représentante de l'administration centrale dans le secteur dit Bellevue 1 à Libreville a initié cette rencontre publique en pleine journée internationale des familles pour inviter les défenseurs des droits de l'homme et des magistrats à débattre des dispositions du projet de code civil soumis au vote des parlementaires gabonais.
Il ne se passe plus un jour sans qu'un homme ne vienne menacer de répudier sa femme qui commence à devenir un peu trop autoritaire. En initiant cette rencontre, j'ai voulu que les chefs de quartier et les autres notables soient en phase avec les textes de loi qui suscitent tant de questionnements.
Les échanges entre experts du droit et le public sur les violences conjugales ont fait ressortir l'urgence d'une sensibilisation de masse avant la promulgation du texte. Léa Béatrice Ndoumou est vice-présidente de l'Observatoire des droits de la femme et de la parité. Elle porte un projet de formation des auxiliaires de justice et des justiciables.
Former des parajuristes, chefs de quartier, serait vraiment très enrichissant parce qu'ils reçoivent du monde. Eux, ils s'occupent en quelque sorte de la médiation familiale dans les quartiers.
Une médiation des conflits qui s'impose déjà dans la cellule familiale. C'est le point de vue défendu par Awa Maïna, elle est veuve.
Nous pouvons édifier nos enfants, conseiller nos enfants, comment il faut vivre avec la famille, les enfants, l'entourage.
Mais les auteurs des violences conjugales ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les situations. Une récente enquête nationale indique que plus de 70% des hommes en sont victimes. Manu Badinga, artiste.
Lorsque vous vivez avec une femme qui vous demande des choses qui sont au-delà de vos moyens, parfois... Une femme va dire parce que c'est moi la femme, c'est moi qui dois garder l'enfant. Alors que l'enfant est peut-être mieux chez son père.
Sidonie Owe, magistrate, insiste quant à elle sur le sens de la responsabilité familiale.
Qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, lorsqu'il a la charge d'une famille, porte en fait la parole de cette famille et engage la responsabilité de cette famille lorsqu'un membre de la famille vint tard. Poser un acte répréhensible.
Le gouvernement a mis en place un numéro vert pour toutes les victimes ou témoins des violences sur le genre et les violences conjugales. L'objectif de ce numéro est de permettre que les autorités politiques et judiciaires soient au courant des violences perpétrées, en particulier celles qui se passent le plus souvent derrière les murs des familles. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
À l'instar d'autres grandes griffes, Valentino a décidé de ne plus utiliser de fourrure animale dans ses collections à partir de 2022. Ces dernières années, les grandes maisons italiennes Prada, Armani, la britannique Burberry, les griffes américaines Donna Karan, Corse ou le couturier français Jean-Paul Gaultier avaient fait des choix similaires. L'utilisation de la fourrure donne aux marques une image dépassée et déconnectée, a commenté l'association de protection des animaux Human Society International, dénonçant une industrie qui tue 100 millions d'animaux pour la confection des manteaux de fourrure chaque année.
Si je ne pouvais.
Au Cameroun, la société civile dit avoir œuvré à réduire l'empreinte du palmier à huile sur la forêt ces 5 dernières années. Une coalition d'organisations non gouvernementales a présenté à Yaoundé ce bilan dans le cadre du projet Green Livelihood Alliance, mené par des jeunes dans 6 zones du pays. Ce projet vise également à protéger les droits des communautés sur la terre. Un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, qui donne notamment la parole à la militante Jeanne Bilois.
Les sociétés ne cassent plus les forêts, donc maintenant elles sont en train de travailler sur les mêmes espaces.
Jeanne Bilois dirige une organisation de la société civile basée à Kribi, dans la région du Sud. L'ONG dénommée Bakuda s'est impliquée dans le projet GLA visant à réduire l'empreinte du palmier à huile sur la forêt. L'association Bakuda défend les droits des communautés Bagili sur la terre. L'un des peuples autochtones du Cameroun, riveraine à la principale agro-industrie du palmier à huile du pays. Jeanne Bilois savoure une petite victoire au terme des 5 années du projet.
Il y a un endroit qui était resté, mais c'est dans le titre foncé de la société. J'ai fait un projet avec le CE2 par rapport à ça. Ils ont dit qu'eux, ils veulent d'abord retrocéder à l'État. Après, maintenant, nous, en tant qu'ONG, on peut écrire à l'État pour que cet endroit-là devienne comme la société.
Il y a 5 ans, la tendance à la hausse dans l'attribution des terres aux agro-industries a été fulgurante, donnant lieu au conflit entre les compagnies et les riverains. Samuel Nguifo du Centre pour l'environnement et le développement.
Le fait qu'on ait eu une demande forte mais qu'on n'ait pas eu de nouvelles plantations donne la possibilité à l'État de réformer et de s'assurer qu'en réformant, on protège mieux les communautés, l'environnement et les forêts et les intérêts de l'État.
À ce jour, au moins 2 agro-industries ont annoncé avoir acquis des droits sur la terre sur une superficie de près de 70 000 hectares. Les nouvelles acquisitions de terres sont estimées à 30 000 hectares, mais elles sont encore non exploitées. Samuel Nguifo du Centre pour l'environnement et le développement alerte à cet effet.
30 000 hectares représentent à peu près la taille de la superficie couverte par les agro-industries dans le secteur du palmier à huile en ce moment. Donc ce n'est pas négligeable, c'est une superficie importante, mais cela représente également un tel de conflits avec les communautés extrêmement élevées dont il faut tenir compte et qu'il faut savoir gérer.
Ailleurs, les défenseurs de l'environnement continuent à mener le combat contre la déforestation.
Il y a la canne à sucre qui a envahi presque 3-4 arrondissements. Sur les 7 arrondissements, il y a le cacao qui est à l'origine de la déforestation.
Joseph Fa Mbolo, activiste défenseur de l'environnement.
Le projet de terre avait été fait par le président Ahidjo dans les années 70. Donc cette zone avait été déclarée une zone agro-industrielle. Et actuellement même l'ensemble des industries pour la transformation des produits locaux qu'on a placé à Mboué en Côte. Il y a des villages qui sont déplacés.
La réforme de la loi foncière, qui date des années 70, est l'une des solutions préconisées pour réduire les conversions de terres forestières en surface agro-industrielle. Le gouvernement s'est engagé à le faire d'ici 2030. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Au aux États-Unis, le club de golf Pine Valley dans le New Jersey, réservé aux hommes depuis 1913, a voté en faveur de l'inclusion des femmes parmi ses membres, rapporte le Golf Digest. Ces dernières n'étaient admises que le dimanche après-midi en tant qu'invitées. Les responsables du club, dont le parcours est considéré comme le meilleur des États-Unis, ont voté à l'unanimité pour supprimer tout langage sexiste des statuts, a déclaré le président de Pine Valley, Jim Davis. Une dizaine de clubs de golf sont encore réservés aux hommes aux États-Unis.
Entre parenthèses.
Au Togo, les prix du logement sont en hausse constante, que ce soit le coût mensuel du loyer, les garanties ou les cautions. La situation interpelle le gouvernement qui planche sur l'élaboration d'une législation dans le secteur de l'immobilier. Un reportage de Kay Lawson. Elle a rencontré des familles qui font de nombreuses concessions pour payer des cautions exorbitantes.
On est dans une cour commune. Une pièce salon, quand on a trouvé ça, c'était à 20 000 francs par mois.
Gisèle vit en location. Elle occupe un local de 2 pièces. Pour y avoir accès, elle a dû verser une caution de 12 mois.
Le maisonnier chez lui, c'est un contrat de 12 mois. Tu finis les 12 mois, tu verses encore l'autre 12 mois aussi. 3 mois avant la fin du contrat, à tout moment tu as celui. Quand il t'appelle, ce sont des menaces.
C'est un peu la situation que vivent les locataires au Togo. Les cautions, pour la plupart des cas, ne sont pas en dessous de 10 mois de loyer. Pour rassembler ces fonds, dans un pays où le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, est à 35 000 francs CFA, il faut être un vrai acrobate.
Pour payer une avance de 12 mois, parfois 18 mois, il faut nécessairement faire un prêt.
Sénat, infirmier d'État.
Et ce n'est pas forcément la banque, puisque nous avons déjà contracté des prêts à la banque. Tu ne peux pas aller faire un prêt sur un autre prêt. Donc nous avons aussi des amis qui nous soutiennent. Donc on se rabat un peu sur eux.
Je faisais une tontine de 10 000 francs par mois. Et ça coïncidait avec mon tour, j'ai pris 120 000.
Gisèle, comptable.
Mon mari s'est devenu aussi, il a trouvé un 100 000. Et on a jonglé avec nos salaires du mois. Ça faisait alors les 240 000 francs. On est parti verser chez le maisonnier et il nous a remis les clés.
150 000 la maison par mois. Ça m'a pris un an et demi.
Gérard, employé dans un cabinet d'architecture.
C'est un parcours de combattant en fait. Il faut des fois aller voir le banquier qui vous donne un petit montant. Et si tu as quelque chose de côté, tu fais ton jonglage et puis au finish tu arrives.
Le président de la Fédération togolaise de l'immobilier tente d'expliquer ce qui peut justifier la fixation de telles garanties par les propriétaires de logements d'habitation. Alexandre de Souza, président de la Fédération togolaise de l'immobilier.
Premièrement, il y a une absence totale de réglementation du secteur immobilier. De deux, le système dans lequel nous sommes, où il y a plus de 80-90% d'informels, les locataires ne donnent pas suffisamment de garanties de solvabilité. La troisième chose, il n'y a pas réellement d'accompagnement, ni au niveau du crédit, qui est très très cher chez nous, ni au niveau des matériaux de construction. Et quatrième chose, la pénurie de logements. Il y a un manque criard de logements dans le pays.
Concernant le vide juridique en la matière, le gouvernement veille y remédier. Un décret est en cours d'étude pour plafonner la caution et la garantie de loyer.
Ce projet est le bienvenu. Je pense que le gouvernement a bien fait de vouloir essayer quand même de permettre aux uns aux autres de respirer un peu par rapport à cela.
Plafonner les cautions et tout cela, c'est très bien. Mais au même moment, il faut aussi revoir le prix des matériaux de construction qu'on applique dans le pays. Et c'est ça qui impacte sur les cautions qu'on sort que les propriétaires de maisons fixes.
La mise en application de ce décret, une fois qu'il est pris, peut être confrontée à la réticence des propriétaires de logements d'habitation, estime Alexandre de Souza, qui suggère un autre mécanisme d'appui à la législation.
Cette tendance ne peut réellement s'inverser par une loi, en réalité. Elle ne peut s'inverser que par des actes concrets, par des constructions. Quand on va déverser plusieurs logements sur le marché, et ça va permettre de réduire cette augmentation. Et quand les propriétaires privés se retrouveront avec des logements qu'ils ont du mal à louer, ils vont baisser les prix.
Selon une étude réalisée par la Fédération togolaise de l'immobilier, les coûts des loyers dans le Grand Lomé ont connu une hausse de 15 à 25% sur les trois dernières années en fonction des zones. Une situation née entre autres de la pénurie de logements. Il faut environ 20 000 logements par an dans le pays pour espérer arriver à bout de cette pénurie. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a relayé au second plan plusieurs programmes de développement en Afrique, dont certains visant à lutter contre le changement climatique. La Millennium Challenge Corporation travaille notamment avec divers pays d'Afrique de l'Ouest pour développer les énergies renouvelables. La directrice générale adjointe de la MCC, Alexia Latortue, en parle avant de mentionner l'implication des femmes dans les questions environnementales.
Le défi climatique est une question existentielle, je dirais, pour le monde et aussi absolument pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone. Parce que franchement, les pays les moins responsables du réchauffement climatique, et beaucoup de pays en Afrique notamment, sont aussi les pays les plus touchés par le changement climatique et les pays les moins bien équipés pour gérer les effets du réchauffement climatique et les coûts associés. Et nous savons que le réchauffement climatique entraîne des sérieux risques au développement. Il y a un lien très fort entre les questions de la pauvreté, de la croissance économique et du changement climatique. Et c'est pour cela que le MCC, en partenariat avec beaucoup de pays où on travaille, notamment des pays en Afrique de l'Ouest, par exemple le Burkina, le Bénin, le Sénégal, s'est engagé dans la lutte contre les causes et les effets du changement climatique très tôt. Par exemple, au cours des dernières 5 années, MCC a investi à peu près 1,5 milliard de dollars dans des programmes liés au climat. Nos activités couvrent à la fois la résilience climatique, par exemple dans le domaine de l'agriculture, l'adaptation au changement climatique et bien sûr l'atténuation des effets du changement climatique. Alors là, on parle par exemple des investissements qu'on fait dans des pays dans le cadre des énergies renouvelables. Par exemple, au Burkina, on a un programme où on travaille dans le domaine de l'énergie, à la fois sur la qualité de l'énergie, l'abordabilité de l'énergie, l'accès aussi dans les zones reculées à l'électricité. On travaille aussi dans des pays comme le Bénin pour essayer de voir comment le secteur privé, les investissements du secteur privé peuvent aussi s'intéresser à l'énergie renouvelable et dans le cas du Bénin, on s'est surtout focalisé sur l'énergie solaire.
Vous avez aussi des programmes au Niger au niveau de l'agriculture, c'est cela?
Oui, tout à fait. Au Niger, on a un programme qui touche sur le secteur de l'eau et le secteur de l'agriculture. Et bien sûr, il y a un lien entre les deux secteurs. Et là, on travaille beaucoup sur tout ce qui est la modernisation des systèmes d'irrigation. On travaille aussi avec les petits agriculteurs pour qu'ils puissent s'adapter à la nouvelle agriculture face aux défis du changement climatique et aux problèmes de sécheresse qu'on voit aussi beaucoup dans un pays comme le Niger.
Vous venez de parler de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau. Et l'on sait que les femmes, hein, dans la plupart des cas, sont les plus touchées par ces lacunes, hein, ces problèmes de manque. Donc, pourriez-vous nous indiquer dans quelle mesure vous apportez un soutien particulier aux femmes en Afrique?
Oui, on s'intéresse à la croissance économique à MCC, mais c'est une croissance économique inclusive qui marche pour tout le monde, y compris bien sûr les femmes. Alors ça veut dire que dès le départ de notre travail en ce qui concerne l'analyse économique, parce que tout ce qu'on fait à MCC avec nos pays partenaires commence avec une analyse des contraintes à la croissance économique. Et on voit qu'il y a des différences. Il faut bien comprendre comment certains problèmes touchent, par exemple, les femmes et les hommes différemment. Alors effectivement, parfois il y a des programmes d'assistance technique pour travailler avec les petites et moyennes entreprises gérées par les femmes qui vont vers elles, qui font des formations spécifiques pour les femmes dans le secteur de l'énergie, l'efficacité de l'énergie par exemple. On a travaillé pour aider les femmes qui gèrent des petites et moyennes entreprises à adopter des mesures qui améliorent l'efficacité de l'énergie qu'elles utilisent. Alors ça correspond à un état, non? Parce que si on gère une entreprise d'une façon énergétique et plus efficace, bien sûr ça représente des épargnes aussi pour la petite entreprise.
C'était la directrice générale adjointe de la Millennium Challenge Corporation, Alexia Latortue. Le Le Monde au Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.